Bienvenue dans Art Interview sur Art District, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel, qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Bonjour Yannick Lintz.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice générale au Musée du Louvre et directrice du département des arts de l'islam, co-commissaire de l'exposition Site éternel de Bamiyan à Palmyre, voyage au cœur des sites du patrimoine universel, qui a lieu en ce moment au Grand Palais jusqu'au 9 janvier encore.
Oui.
Cette exposition propose aux visiteurs une visite immersive de sites aujourd'hui pour la plupart inaccessibles parce que situés donc en zone de conflit, hein, comme on le voit tous les jours aux informations malheureusement.
Ouais.
On peut les voir donc dans cette exposition en images, en vidéo et en reconstitution 3D pour ceux qui ont été en partie détruits. Vous avez axé l'exposition, donc vous et les autres commissaires de cette exposition, sur 4 grands sites emblématiques du patrimoine syrien et irakien. On y reviendra un petit peu après.
Mm-hmm.
Pour une première question, pourquoi cette exposition était nécessaire aujourd'hui ?
Alors, je dirais pour rendre à César ce qui appartient à César, la première idée en vient à Sylvie Hubach, la présidente de la Réunion des musées nationaux, qui est venue solliciter Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, en juillet dernier. Donc dans cette première réunion où j'étais conviée avec ma collègue des antiquités orientales anciennes, Marielle Pic, l'idée était de dire, cela fait maintenant un an et demi à peu près, que nous sommes inondés d'images de propagande de cette destruction du patrimoine dans cette région, et qui diffuse quand même un sentiment d'émotion et d'angoisse aussi, quelque part. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avant la fin de l'année, tenter de créer un événement médiatique d'images du patrimoine de ces régions qui nous donne un peu un autre message? Certes, donner l'occasion aux gens de rentrer dans ces sites qu'ils ont l'impression de plus jamais pouvoir revoir, et du coup de leur donner aussi le sentiment que ce patrimoine est encore accessible d'une manière ou d'une autre, et que c'est l'occasion aussi de donner un message plus positif. Donc voilà l'origine réelle de cette exposition. L'exploit, c'est que tout le monde a dit oui tout de suite, y compris des mécènes, puisque cette exposition est complètement mécénée, d'où la gratuité d'entrée. Mm-hmm. Et le tout s'est fait en 6 mois ou en moins de 6 mois.
Oui, alors c'est vrai que ce qui est à souligner, c'est qu'il y a peu d'objets, en fait, peu d'objets d'art à voir dans cette exposition. C'est surtout effectivement des vues de ces grands sites. Alors on a beaucoup parlé de Palmyre, hein, aux informations. Palmyre a été un peu un déclencheur d'ailleurs. Mm-hmm. Pour la communauté internationale, en tant que vraiment site emblématique de ce désert berceau de l'humanité un peu. Mais ce qui est bien dans cette exposition, c'est que vous parlez de 3 autres sites qui sont peut-être aussi moins connus du grand public. Donc c'est une manière aussi de dire il y a d'autres sites, il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs là, il n'y en a que 4, mais en fait, malheureusement, il y a d'autres sites aussi qui souffrent et qui ont été en partie détruits.
Oui, en effet, on ne pouvait pas imaginer faire ce type d'événement sans évoquer Palmyre, comme vous le dites, qui a été sans doute l'image la plus forte dans l'émotion médiatique de ces destructions. Et en même temps, nous voulions, en choisissant 3 autres sites en plus, évoquer non pas l'ensemble des destructions et des sites aujourd'hui menacés dans cette région du Proche-Orient, mais en choisissant uniquement 4 sites, avec Palmyre intégré dans ces 4, c'était l'idée de dire il faut qu'on ait des sites symboliques, emblématiques, de certains types de destruction ou de certains types de conservation du patrimoine. Et ceci limité à la région sur laquelle porte l'actualité aussi de cette question en ce moment, qui est le Proche-Orient. Parce que du patrimoine menacé, il y en a partout dans le monde. Et l'UNESCO le rappelle très clairement. Donc, le choix s'est porté effectivement sur la Syrie et sur l'Irak. C'est très subjectif, hein, parce que certains peuvent dire pourquoi pas le Yémen et pourquoi pas la Libye, hein, qui est quand même aussi dans cette région. Donc, ça a été subjectif, mais c'était aussi parce que nous voulions insister sur des œuvres, sur des sites dont le Louvre conservait des œuvres. Oui. C'était aussi le critère à partir du moment où le Louvre était le commissaire de ce projet, commissaire scientifique de ce projet. Et d'où ce choix final autour de deux sites de l'époque pré-islamique, donc vous avez cité Palmyre, mais l'autre site est le site irakien de Khorsabad. Pourquoi Khorsabad ? Parce que simplement, les premières images qui nous ont ébranlé en mars 2015 était celle de la destruction des fameux taureaux de Nimroud et il se trouve que le Louvre conserve l'équivalent venant d'un site voisin de Nimroud qui est le site de Khorsabad que les Français ont fouillé au milieu du 19e siècle. Donc ça semblait aussi évident de montrer à travers Khorsabad que des choses avaient été retenues, mais qu'en fait on était en même temps dans un patrimoine que l'on pouvait continuer à voir sous une autre forme. Les deux autres sites, et ça c'est symboliquement très important aussi, d'époque islamique, la mosquée de Damas, la mosquée des Omeyyades, donc l'une des premières mosquées du monde islamique, et le Krak des Chevaliers, qui est ce grand château fort construit par les Latins, donc les croisés qui sont arrivés en terre d'Orient pour mener les croisades au XIIIe siècle et qui est sans doute le grand château fort que l'on allait visiter quand on faisait son tour, je dirais, son voyage en Syrie. Alors, pourquoi la mosquée de Damas et le Krak des Chevaliers dans le cadre des destructions de patrimoine ? Le Krak des Chevaliers évoque de vraies destructions qui a eu lieu parce que c'est en dehors des villes, hein, c'est sur la montagne syrienne, mais ce sont des châteaux qui, en période de guerre, sont utilisés comme repli, comme cache d'armes, mais c'est en même temps dans cette philosophie que l'on veut faire passer sur la question de la destruction du patrimoine, de montrer qu'un pays, et notamment ce pays-là, avait déjà des ruines, enfin des destructions, oui,
il y en a eu avant, il y a eu des conquêtes, des invasions, mais voilà. Aujourd'hui on a un regard occidental qui prend en compte la conservation du patrimoine, ce qui n'était pas le cas dans les années passées.
Tout à fait. En tout cas, c'était intéressant, à travers cet exemple du Krak des Chevaliers, enfin c'est intéressant, de montrer ces destructions et ces réappropriations. On peut voir notamment les images des habitants qui l'occupaient comme un village encore au début du XXe siècle. Enfin, il y a eu des réappropriations jusqu'à la réappropriation touristique de ces dernières années. Et un mot sur la mosquée de Damas.
La plus épargnée peut-être des quatre sites.
Tout à fait, simplement parce que Damas n'est jamais été un vrai front de guerre. Il y a eu des tirs de roquettes sur la mosquée au début de la guerre, en 2013 notamment, d'où des récentes restaurations, mais il est clair que Damas n'a jamais été au cœur de la guerre. Donc il y a deux symboles avec la mosquée de Damas. C'est celle d'évoquer indirectement la mosquée Omeyyade d'Alep, qui elle a été complètement détruite.
Et Alep, qui lui ressemblait un peu peut-être.
Oui, tout à fait. De la même époque, c'était les deux grandes mosquées avec un magnifique minaret, des mosaïques. Voilà, donc on a d'un côté ce qui n'existe plus de l'autre, et en même temps, c'est aussi l'occasion dans l'exposition d'évoquer une très belle histoire qui nous rend philosophe sur la destruction du patrimoine, puisqu'en 1928, un Français, Eustache de Lauray, qui était alors nommé à Damas pour diriger l'école française des études arabes, se lance dans un chantier de redécouverte des mosaïques dans la cour de la mosquée de Damas, qui était à ce moment-là complètement recouverte, tous les murs étaient recouverts d'un badigeon blanc, un peu coloré, un peu décoré. Et tout le monde savait qu'il y avait eu là en dessous des mosaïques dès l'époque omeyyade, qui étaient célèbres dès le Moyen-Âge, mais tout le monde pensait qu'elles avaient disparu dans l'incendie de 1893 et que finalement ça avait été remplacé par le badigeon. Et personne n'avait réalisé que le badigeon avait été mis pour protéger les mosaïques. Et donc Eustache de Lauray a eu l'initiative de commencer à enlever ce badigeon. Il a eu l'autorisation des Syriens et il a commencé à redécouvrir en dessous les mosaïques qui finalement avaient été préservées. Et au Louvre, on conserve une collection exceptionnelle de ce qu'on appelle des relevés grandeur nature, c'est-à-dire il a eu la formidable idée en plus de demander aux peintres de l'école de Damas, au moment de la découverte, de peindre, tesselle par tesselle, la tesselle étant l'unité, le morceau avec lequel on compose ces puzzles d'images en mosaïque. Donc ces artistes ont peint grandeur nature ces panneaux de mosaïque en créant même les ombres sur les tesselles, et le Louvre possède cette collection de 15 panneaux qui dans les années 30, je dois dire, ont fait le tour du monde tellement l'événement était exceptionnel de redécouvrir. Donc j'espère que dans quelques années, quand nous en serons à des restaurations, nous aurons peut-être d'heureuses surprises aussi de cet ordre-là.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que directrice des arts de l'islam au Louvre, vous êtes obligée évidemment de penser en parallèle avec la guerre, c'est-à-dire que, mais on peut déjà essayer de penser au futur, c'est-à-dire quand la guerre, on espère tous, sera finie. Mais justement, aujourd'hui, est-ce que ça change quelque chose à votre métier? Est-ce que vous vous sentez plus militante, justement un peu dans la lignée de tous ces archéologues qui ont voulu aussi faire redécouvrir ce riche patrimoine de la Mésopotamie? Est-ce que depuis que la guerre a commencé, vous avez ce sentiment et finalement peut-être une émotion vraiment très forte en vous en tant que directrice ici dans un des musées au monde qui a la plus grande collection aussi d'art islamique?
Oui, vous avez prononcé le mot juste, on se sent militant, je dirais d'abord humanitaire d'une certaine manière, dans la mesure où on se sent concerné aussi par le destin de nos collègues dans ces régions. Et que dans les mesures qu'on essaye de prendre, c'est aussi au maximum d'aider ces gens-là, et notamment quand ils ont la chance de se trouver en France, comme beaucoup d'entre eux, d'essayer de travailler avec eux. On a par exemple eu la chance d'engager au département des arts de l'islam un de ces jeunes professionnels syriens spécialistes du patrimoine islamique, notamment à Damas. Donc voilà, c'est déjà ce militantisme-là. Et puis de se dire qu'il faut que l'on puisse modestement contribuer à une forme de sauvegarde de ce patrimoine. Alors que faire quand on est loin, protégé et en temps de guerre là-bas? Eh bien, on a entamé notamment au département un programme de travail que l'on appelle PAPSI, c'est son nom, voilà, son acronyme, qui est en gros un projet que l'on mène dans tout un réseau en France de recensement des archives, des anciennes photos, des anciens plans, des anciens relevés, de tous les monuments des villes syriennes, irakiennes, de Mossoul, par exemple, mais aussi d'Alep, qui vont être les deux grandes villes une vraie problématique se posera, comme elle s'est posée dans les grandes villes détruites de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et donc, nous essayons de rassembler un maximum de documentation qui va pouvoir, et de la classer, de l'analyser, pour se dire que nous tiendrons le jour venu à disposition pour les experts qui auront à travailler sur ces reconstructions ou ces restaurations, ces documents qui pourront être utiles, puisque face à du patrimoine détruit, il faut avoir la connaissance des différents états dans lesquels ils ont pu être entre leur construction et leur destruction. Et faire des choix de conservation, de restauration en fonction de cette connaissance qu'on aura pu accumuler par cette documentation.
Donc ça, c'est un travail qui commence dès aujourd'hui, hein, même peut-être hier, on va dire. Et c'est aussi un travail que vous pouvez faire en collaboration avec des entreprises comme Iconem, qui est présentée dans l'exposition, qui est une start-up française qui envoie des drones donc sur les sites archéologiques menacés et qui arrive à prendre des photographies, à reconstituer en trois dimensions les sites archéologiques, mais aussi avec toute leur mémoire leur construction, leur évolution, etc. Est-ce que justement cette nouvelle archéologie du futur, on peut dire, c'est quelque chose que vous intégrez aujourd'hui complètement dans la politique de conservation de votre département et qui est nouvelle et où vous allez avoir des réflexions nouvelles dessus?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Oui, ces nouvelles technologies de, on va dire, de prise de vue d'image par drone, puis de traitement informatique qui permet de créer une vision en 3D, selon des technologies très complexes, mais très maîtrisées par Iconem, est une chose. C'est-à-dire, c'est un nouvel outil de travail aujourd'hui pour les diagnostics patrimoniaux au sens large et pour les connaissances des archéologues dans leur connaissance du terrain. Donc oui, c'est sûr qu'on peut parler d'une archéologie du futur d'une certaine manière, mais finalement, moi je pense que c'est pas la connaissance même qui va être évolutionnée, c'est les outils avec lesquels on va pouvoir comprendre, interpréter, de même que faire de la photographie aérienne dans le dernier tiers du 19e siècle était une révolution. Donc des révolutions technologiques, il y en a toujours eu, et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de l'utiliser parce qu'on est dans un tournant d'une nouvelle technologie. Après, elle n'intervient pas, je dirais, directement pour nous dans la question de la conservation du patrimoine. Encore une fois, elle permet de faire un diagnostic pour le contexte, on va dire, urbain et des monuments. Elle permet de faire un diagnostic de l'existant. Et nous, c'est vrai, ce qu'on doit y apporter, c'est la connaissance des états antérieurs. Et c'est un travail, je dirais, collaboratif qui peut se mettre en place parce que Iconem est capable, y compris avec une photographie ancienne, de la faire évoluer. Mais je pense que plus que jamais, comme souvent quand il y a de la technologie qui est apportée, on a besoin aussi d'avoir l'analyse de l'image et pas que l'image elle-même.
Oui, et le musée étant un lieu de connaissance ou de partage des connaissances, ce sera ma dernière question. Donc effectivement, c'est aussi peut-être une manière de pouvoir réintégrer des images ou d'une manière pédagogique au sein des salles du musée, puisque aujourd'hui, malgré tout, la Mésopotamie, les arts de l'islam sont quand même pas très connus de nos pays occidentaux. Il y a un travail à faire peut-être pour faire connaître, expliquer toute cette beauté, puisqu'on parle beaucoup de violence, malheureusement, c'est ce qui prend le dessus, mais l'islam, ce n'est pas que ça.
Ah oui, c'est un de mes enjeux, et je dirais une de mes responsabilités les plus grandes. On entamait cette interview par le mot de militante, mais ma responsabilité et mon militantisme vont aussi jusqu'à cet engagement pour développer sous toutes ses formes, que ce soit des expositions, que ce soit les améliorations d'explications dans nos collections permanentes, que ce soit des cycles spectacles qui vont commencer mi-février à l'auditorium du Louvre sur découvrir les arts de l'islam. Il s'agit à la fois, parce que c'est beaucoup de ce patrimoine est détruit, d'en montrer la beauté, je dirais en partie disparue, mais il s'agit, comme vous le dites aussi, de montrer l'âge d'or ou les âges d'or de cette civilisation islamique, voilà, qui a su développer une culture et une science considérable qui a bien servi à plusieurs époques à l'Occident pour renaître elle aussi dans sa civilisation. Donc il est clair qu'il faut montrer qu'il y a un islam des lumières, comme on dit.
On va terminer là-dessus. Yannick Lins, merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.